Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kero.
RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC dédié à tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici. Des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard ou matos pour rester motivé. Avec Yoann Durand, marathonien, membre de l'équipe de France, celui qui court plus vite que son ombre. Salut Yoann.
Salut à tous, salut Benoît, ça va?
Comment y va le champion alors?
Bah, je cours pas plus vite que mon ombre, mais je commence à courir un peu plus vite qu'il y a quelques semaines, ouais. Donc c'est déjà pas mal.
Eh oui, on commence à voir des sorties sur les différents réseaux sociaux et ça nous rassure, évidemment.
Exactement.
Le timing est bon. Alors Yoann, épisode très attendu cette semaine, un épisode thématique qui va passionner tous ceux qui nous écoutent parce que ça concerne vraiment l'ensemble des coureurs. Comment bien choisir sa paire de chaussures? Quelles sont les précautions à prendre avant d'acheter? Les erreurs à éviter? Pour en parler avec nous, évidemment, comme toutes les semaines, un spécialiste, Grégory Larquet, podologue, sera là. Donc, il pourra répondre à toutes les questions que vous vous posez. Si vous aimez RMC Running, on vous le rappelle, abonnez-vous sur les différentes plateformes de téléchargement, Apple, Spotify, Deezer. Vous laissez une note, évidemment, pour bien satisfaire notre ego, c'est important, et pour faire grimper le podcast. Et puis, vous allez également sur les applis d'RMC, c'est important. Et vous nous rejoignez aussi sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Strava. Dans la deuxième partie, d'ailleurs, on aura un bon plan matos cette semaine, Yoann, avec le responsable français de la marque américaine Altra. Une marque particulière, justement, ça tombe bien avec cet épisode. Il nous racontera la philosophie d'Altra et puis il nous fera gagner 3 paires de chaussures. Donc, soyez là jusqu'au bout. Allez, enfilez vos baskets, c'est le cas de le dire. Attachez vos lacets. C'est parti pour RMC Running.
RMC Running.
Et il est avec nous, Grégory Larquet, podologue, donc à Paris, évidemment, qui est avec nous cette semaine. Salut Greg.
Salut Benoît, salut Yoann.
Alors forcément, Grégory Larquet, salut. Le nom Larquet vous parle. Fils du grand Jean-Michel Larquet, légende du foot français, légende du commentaire sportif, membre de la Dream Team RMC Sport. Bah, première question, Grégory, t'es devenu podologue pour soigner les pieds carrés diagnostiqués par ton père?
les miens ou les siens?
Ah non, ceux des footballeurs français.
Non, absolument rien à voir. Complètement par hasard, j'ai rencontré un ami de papa qui est au Variété Club de France et qui est podologue. Je suis allé le voir bosser et puis j'ai trouvé ça passionnant. Ce métier qui permet d'allier l'intellect et le côté manuel que j'adore, la mise en œuvre du traitement, et voilà, et je suis tombé dedans et ça a été une vraie passion dès le début de mes études.
Et voilà, et du coup tu as poussé ça. Il faut savoir, parce que moi du coup on se connaît un petit peu, on se parle depuis quelques temps, Grégory, t'as un emploi du temps de ministre, hein. T'as pas une minute à toi, donc on te remercie de prendre le temps aujourd'hui d'être avec nous parce que c'est un travail intensif quand même, hein.
J'ai quelques créneaux à partir de mi-janvier, ça va.
C'est ça, voilà à peu près. Et puis comme en plus il est passionné de golf aussi, hein, je crois, Grégory, donc ça laisse peu de temps évidemment,
oui,
pour les autres distractions. Est-ce que tu cours déjà, Grégory, toi, dans la vie?
Oui, très occasionnellement, mais oui, je fais quelques sorties, oui.
Est-ce que les runners...
Mais pas de marathon.
Ah, pas de marathon, contrairement à Yoann.
Je sais trop ce que ça fait sur des mecs de mon âge.
Voilà, c'est ça.
Toi, tu vois les pieds arriver, ouais, dans un état...
Tu vois les dégâts, ouais, tu constates,
ouais,
les dégâts.
Ouais, pas que les pieds, les genoux.
Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on va pouvoir te poser toutes les questions. Ça va être passionnant, évidemment, de passer ce moment avec toi. Question évidente, mais tu as énormément de runners qui viennent te voir dans ta clientèle. Ça représente un gros pourcentage?
Ouais, moi j'ai créé mon cabinet en novembre 99 et... C'était encore un sport qui était pratiqué, mais pas énormément à l'époque. Et il y a eu une grosse, grosse explosion les 10 dernières années. Vraiment énorme. Et aujourd'hui, ça représente bien ce qui n'était pas le cas avant, mais bien 25-30% de mes patients.
Ah oui, quand même. Oh, c'est énorme. 30% de ta clientèle. Ouais. Donc,
Il y a 13 millions de runners en France, occasionnellement, hein, mais ça fait du monde. Hein.
On voit de tout. Hein. On voit de tout. Et j'ai l'impression même qu'il y a eu encore une recrudescence depuis cet épisode de Covid.
Tout le monde s'était mis à courir.
Et de confinement, où tout le monde s'est découvert des capacités sportives qu'il n'avait pas forcément. et là, on a eu pas mal de blessures.
Ah oui. Eh ben oui, parce que quand on attaque trop vite, trop fort, on l'a déjà
et
dit.
Et mal équipé.
Mal équipé surtout, tu vois.
Exactement.
Et, ouais. Et puis tu sais, il y a eu un effet RMC Running, hein, Grégory Larqué. Dès qu'on est arrivé, bam, ça y est, tout le monde s'est mis à la course.
Quand on a lancé les podcasts, ouais. Ça. Ouais.
C'est ça. Non mais, Greg, déjà oui, je voulais demander à Johan, en préparant le podcast, est-ce que tu consultes un podologue, toi, qui est un champion, qui envoie énormément de kilomètres sur une année? Est-ce que c'est comme un ostéo, comme un kiné, ou t'as pas l'occasion d'aller voir ce type de médecin?
Non, moi si, j'ai des semelles orthopédiques depuis presque 10 ans maintenant. À partir du moment où j'ai eu mes premières blessures au tendon d'Achille, j'avais jamais eu de semelles. Et quand j'ai commencé à avoir des douleurs assez récurrentes au tendon et des tendinites, je me suis orienté vers un podologue pour faire un rééquilibrage un peu, pour me surélever au niveau du talon, pour mettre un peu en décharge les mollets et tout ça. Et donc depuis, je suis suivi par la même personne qui me suit à Muret, là, par Cédric Ganté. Donc j'y vais tous les 4 mois.
Ah
tous
oui.
Les 4 mois, je vais quand tu cours presque 150 km en moyenne, hein, 150 ouais. km par semaine, tous les 4 mois, je peux te dire tes semelles j'ai des semelles pour les footings, des semelles pour la chaussure un peu plus d'entraînement et des semelles pour la compétition et elles prennent cher hein. Donc quand elles sont écrasées, quand elles sont affaiblies, c'est là où peuvent arriver les blessures. Donc tous les 4 mois, je vais chez le garagiste, comme on dit, je remets la gomme et puis on repart, ouais. Donc j'ai commencé depuis 10 ans et depuis 10 ans j'ai des semelles, ouais.
Est-ce que tu gères des champions, Greg? Ouais, vas-y.
J'ai une question pour Johan, juste pour par rapport à sa pathologie. Est-ce que tu connais forcément ton type de course, si tu es en cycle avant, en cycle arrière, et si tu attaques Taligrad ou médio-pied?
Moi, je suis plus médio-pied avec une foulée de cycle arrière. Ouais. Mais aujourd'hui j'ai plus mal au tendon d'Achille, je me suis fait opérer, ça a duré 5 ans avec des douleurs plus ou moins récurrentes, et donc après j'ai fini par me faire opérer quand j'avais fait tous les protocoles, que ça soit podologue, kiné, que j'avais essayé de soigner ça, c'était assez récurrent, et donc du coup je m'étais fait opérer et depuis ça va mieux, ouais.
Rassure-moi Grégory, elle est gratuite cette consultation.
Ouais, complète.
Ah bon, merci. Autre question que je voulais te poser, les gens viennent te voir en préventif ou c'est toujours quand le mal est fait qu'on vient te consulter?
Ouais, c'est 90% c'est quand le mal est fait.
Alors
80... Après il y a... Après, on va dire sur les 10% restants, c'est du bouche à oreille ou des coureurs ou des coureuses m'envoient leurs amis en disant il m'a équipé, je me sens mieux, etc. Mais en grosse partie, c'est beaucoup sur prescription de médecins du sport, rhumato, etc., ortho. Et plus quand le mal est déjà là. Ouais.
Est-ce que c'est le premier conseil que tu peux donner dans ce podcast, c'est-à-dire pourquoi pas faire de la prévention et venir consulter un podologue, même quand on n'a pas de problème, entre guillemets, ou c'est pas forcément nécessaire?
Sincèrement, je pense que c'est pas la semelle, elle est pas indispensable. Si t'as quelqu'un qui court depuis des années avec ses chaussures plus ou moins bien adaptées et qui a pas de douleur, moi, je veux bien, mais j'ai pas le temps de lui faire des semelles s'il en a pas besoin. Mais non, l'idée, c'est que, en fait, t'as deux types. T'as ceux qui vont courir qui ont pas de problème, et puis t'as ceux qui vont venir se mettre à la course à pied et qui ont un problème connu. Par exemple, ou une surcharge pondérale avec des problèmes de genoux connus, de dos connus, un pied complètement pronateur qui s'affaisse, un genu valgum, les jambes en X, ou à l'inverse, des jambes arquées en varum. Voilà, eux, en prévention, ils peuvent venir faire des semelles du moment où ils ont décidé de se mettre à la course à pied, parce qu'on sait de toute façon, et eux ont peut-être déjà des douleurs dans leur vie quotidienne, ils savent de toute façon que la course à pied ne va faire que qu'augmenter ces pathologies.
Alors, quelles sont les premières questions que tu poses quand quelqu'un vient te voir, justement, qu'il a une douleur ? Est-ce que ça concerne directement les chaussures ? Est-ce que tu poses la question de la marque et du kilométrage des chaussures, surtout ?
Alors, je leur demande de toute façon toujours de venir avec leurs chaussures. Donc, ce qui me permet, moi, de voir, bien sûr, l'usure, le type de chaussures qu'ils mettent. Est-ce qu'elle a du drop ? Est-ce qu'elle n'a pas de drop ? Est-ce qu'elle est universelle ? Est-ce qu'elle est pour pronateur ? Est-ce que l'usure est normale ou pas ? Et en fonction de l'usure, en plus, moi, ça me renseigne énormément sur leur foulée. Parce que je les fais toujours courir sur tapis au cabinet,
ouais.
Mais c'est jamais naturel, en fait. Sur un tapis de course, c'est toujours... ils savent qu'ils sont observés, donc ils n'ont pas la même foulée. Il y a eu des tests qui avaient été faits comme ça autour d'une piste où les gars analysaient la course de coureurs et puis ils avaient mis des caméras. Et en fait, tu voyais les gars qui se redressaient un petit peu dans la course.
C'est bon, ça. Non, j'ai rien, tout va bien.
Donc, il y a toujours un peu ce qu'on appelle le syndrome de la blouse blanche, tu vois, quand tu observes.
Oui, bien sûr.
La chaussure un peu usée, qui a fait des bornes dehors sans que personne les observe, ça nous renseigne énormément.
Alors justement, dis-nous quelles sont les principales pathologies liées à l'usure d'une chaussure. Qu'est-ce que ça peut engendrer comme conséquence et comme blessure ?
Alors la pathologie la plus rencontrée chez les coureurs, ce que les Anglais appellent ça « runner's knee », le genou du coureur, c'est le syndrome de l'essuie-glace.
Ah oui.
Qui a la particularité d'être une pathologie qui va faire mal, alors pas tout à fait au même endroit, mais qui va faire mal dans ou bien ce qu'on appelle le varum, la jambe arquée ou le pied varus qui part vers l'extérieur, donc les supinateurs, ou parfois un excès de pronation avec une rotation axiale du genou et du fémur et l'abaissement du tubercule où s'insère la bandelette iliotibiale.
Pour donc, vulgariser un peu, en fait, c'est une inflammation qui est sur un ligament en dessous de la rotule.
C'est une sorte de ligament latéral externe.
Là, j'ai connu, ça fait mal. Hein.
Actif, qui stabilise le genou en dehors. Et si tu veux, à chaque flexion-extension lors de la foulée, si on a le genou qui n'est pas dans l'axe, ce tendon vient frotter sur la partie externe du fémur. Et le frottement répétitif va inflammer la zone. Et les coureurs sont capables généralement de te dire j'ai couru, j'ai fait 5 bornes, ça y est, j'ai ma douleur. Et s'ils continuent là-dessus, elle ne fait qu'augmenter.
Ben, c'est exactement ça. Et alors qu'au repos, on ne sent rien, évidemment.
Et au repos, on ne sent rien. Et en 24 heures, elle a disparu.
Ouais. Ouais. Et alors, anecdote personnelle. Donc moi, j'ai eu cette pathologie. J'avais acheté tous les accessoires qui sont vendus dans le commerce. Notamment, tu sais, le petit renfort, l'espèce de strap qu'on peut mettre autour du genou pour renforcer et appuyer sur le ligament qui n'avait rien fait. Et en revanche, dès que j'avais changé les chaussures... Au bout de 3 séances, j'avais plus mal. Donc, tu vois, ça avait rééquilibré peut-être le genou.
Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, de toute façon, quand tu as un déséquilibre fonctionnel du pied en dynamique, qu'il soit pronateur, supinateur, l'usure de la chaussure, qui reste une chaussure un peu souple, fonction des modèles plus ou moins souples, ne va faire au bout d'un moment qu'amplifier ce déséquilibre.
Alors, allons-y sur les paires de chaussures. Comment choisir sa paire de chaussures ? Quels sont les principaux conseils à appliquer justement quand on veut acheter une paire ? Déjà, est-ce qu'on peut dire, Grégory et Johan, qu'il faut toujours acheter plus grand que sa pointure ? Ça, on est d'accord ? Parce qu'en running, avec les chocs répétés, etc., on prend toujours une pointure au-dessus, hein, c'est ça, Greg ?
Oui, moi, au minimum, une pointure au-dessus.
Ouais. Oui, au minimum.
Le pied, quand tu cours... l'impact pied-sol qui est considérable, hein, en fonction que tu sois médio-pied ou arrière-pied, ça peut varier de 4, 5 à 8 fois le poids du corps, impact pied-sol. Et en fait, l'impact crée une petite stase veineuse distale au niveau du pied, c'est-à-dire que le pied va avoir tendance à gonfler et peut augmenter de 6 à 8% de son volume initial.
C'est dingue.
Donc si la chaussure est sous-dimensionnée, au bout de 45 minutes de course... c'est les ongles notamment qui peuvent prendre et les pieds.
Tout bleu.
Et ouais, c'est ça. Attends, je te laisse, Johan. Je finis juste sur... Et surtout, ce gonflement peut créer des pathologies des avant-pieds qu'on appelle le Morton, qui est très fréquent chez les coureurs.
Johan,
le syndrome de Morton.
Toi, c'est le cas, Johan. Tu prends une ou deux pointures en plus sur toutes tes chaussures
Une pointure au-dessus. Enfin, après, on le sent, hein, on laisse toujours un peu de marge, mais c'est encore plus vrai sur marathon. Hein, comme il disait, le pied gonfle Et tout mère, après, il y a rien de pire qu'avoir une chaussure trop étroite. Hein, quand vous vous sentez à l'étroit, que vous courez, que vous sentez que votre pied, il tape, il bute. Ça m'est déjà arrivé hein, en compétition ou à l'entraînement. Et quand vous l'enlevez, votre chaussure, alors vous avez des ampoules sur le talon parce que ça frottait trop au talon. Et à l'avant du pied, vous avez les orteils
bleus.
Qui sont tout bleus. Là, c'est un enfer. Hein.
Exactement.
Là, vous dites, voilà, vous en avez pour... Et puis, vous en prenez pour 15 jours de douleur.
Ouais,
c'est galère, ouais.
Ah ouais, bah bienvenue dans le quotidien de Grégory Larquet. Voilà.
C'est ça.
Donc ça, c'est le premier conseil, toujours prendre plus grand que sa pointure. Est-ce qu'on prend, comme tu le disais, on l'a un peu abordé, mais une chaussure qui est adaptée à sa foulée. C'est vrai qu'il y a une multitude de choix sur les différents sites, les différents magasins de chaussures de running et parmi les différentes marques. On peut rappeler déjà les différents types de foulées et signaler que c'est important de le savoir, connaître sa foulée pour choisir sa chaussure, Grégory.
Alors, t'as trois grands types de foulées. Hein. Alors là, je parle juste de l'équilibre du pied. Hein. On va pas, parler cycle avant, cycle arrière, etc. Mais t'as l'universel, ça représente 45% des coureurs. Le pronateur, qui est le pied qui bascule vers l'intérieur, qui est 45% des coureurs. Et supinateur, le pied qui part en dehors, vers l'extérieur, c'est seulement 10% des coureurs.
Et puis en canard, quoi.
Après, ça c'est à... 45% des coureurs sont universels, mais il faut quand même savoir que... Au bout d'une heure, de course, 45 minutes, une heure de course, on a quand même une pronation de fatigue qui arrive. Donc quelqu'un qui peut être universel sur une analyse dynamique comme ça à l'instant T, tu le fais courir une heure, tu vas voir qu'il y a une petite pronation du pied, que le pied a tendance à venir vers l'intérieur.
Et la foulée, c'est vraiment donc unique à chacun et c'est immodifiable, Grégory, une foulée de quelqu'un, tu peux pas lui
Alors,
changer
si,
ça
c'est,
à,
Si, si, c'est modifiable, mais il faut un entraînement très progressif, faut être quelqu'un d'assez léger, faut un certain niveau quand même. Chez le coureur qui fait ça pour s'entretenir, aucun intérêt à essayer de modifier sa foulée. Il vaut mieux adapter le matériel et la semelle pour lui apporter du confort parce que modifier sa foulée peut lui créer d'autres problèmes, lui, articulaire ou aparticulaire, par compensation.
Johan, t'es plutôt universel ou pronateur,
ouais.
Toi, comme mec ?
Non, moi, je suis universel, ouais.
Ah, bon, alors, tout droit. Ça y est, t'étais prédestiné, quoi.
Oui, alors après, oui, bien sûr, comme il le disait, on a peut-être tendance, avec la fatigue, à avoir de changer sa foulée, mais de base, ouais, je suis universel. Donc, attaque médio-pied universel, j'use les chaussures sur le devant.
Voilà. Tu cours sur l'avant du pied comme une gazelle, quoi. C'est ça.
Voilà.
Bon, conseil numéro 1.
J'espère un peu quand même pour son niveau, j'espère.
Moins de 2h09, 2h09 au marathon, À un moment, il vaut mieux courir comme ça qu'en canard.
Oui, c'est ça.
Voilà. Premier conseil, les gars, on est d'accord, c'est le confort. Ça, c'est vraiment primordial, indispensable. Avant de penser à la performance, etc.
Essayer plusieurs marques et avoir vraiment le confort du chaussant. Ouais, tout à fait.
Est-ce que le podologue, parce que le champion va me dire oui, mais est-ce que le podologue me conseille de posséder plusieurs paires ?
De toute façon, aujourd'hui, alors ça c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué, l'usure, elle est quand même de plus en plus rapide, notamment des mousses intérieures au niveau du renfort talonnier. Je le vois chez mes patients, la mousse de confort qu'il y a au niveau juste en dessous de la cheville et au niveau de l'emboîtage du talon a tendance à s'user de plus en plus vite. Donc, tourner sur plusieurs chaussures, oui, uniquement si tu fais différentes type de terrain,
voilà.
C'est-à-dire que tu fais de la route ou tu fais du trail, voilà. Mais te dire comme je vais changer de chaussures histoire de les conserver, pas grand intérêt pour moi.
D'accord, c'est intéressant ça. Tu dis l'usure s'accentue avec les nouveaux modèles, ça veut dire que la moyenne de durée de vie d'un modèle, pour toi un podologue, c'est quoi ? C'est combien de kilomètres ? T'as une idée de ça ?
On estime que c'est sur une chaussure légère, c'est-à-dire qui fait dans les 200 grammes ou moins. Ça va être 400-500 kilomètres.
Et sur une chaussure d'entraînement.
Non, c'est pas grand chose. Et sur une chaussure d'entraînement, tu vas être plutôt qui est un peu plus lourde, qui est un peu plus stable, tu vas être plutôt dans les 800 à 1000 kilomètres.
Yodu, il change toutes les semaines, le mec.
Ah, moi, ça, c'est la chance d'être athlète sponsorisé par une marque. C'est-à-dire que ouais, je tourne avec. Je dois avoir 5 paires de chaussures. Sur lesquels je tourne par semaine, mais c'est moi je les utilise en fonction du terrain sur lequel je vais et de l'entraînement que je vais mettre en place. C'est-à-dire que j'ai une chaussure pour mes footings, j'ai une chaussure pour mes footings de tempo, j'ai une paire de chaussures pour mes séances sur piste, j'ai une paire de chaussures pour mes compétitions, j'ai une paire de chaussures pour la technique, etc.
Et malgré ces 5 paires, ça te dure combien de temps? La durée d'une prépa marathon, admettons, 3 mois, et puis après tu changes toute la gamme?
Ouais, alors le problème c'est ça, c'est que l'usure des mousses, ça il faut le sentir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, au visuel, des fois, les gommes sont quand même un peu solides, et ça se voit peut-être un peu moins qu'à l'époque, j'ai l'impression. Mais ouais, 500 bornes, il faut essayer de calculer combien on fait. Mais ouais, moi je tourne quand même assez vite. Dès que je sens que l'amorti c'est plus le même, moi je suis vachement confort amorti. Et dès que je sens que ça commence à taper au sol, que c'est plus du tout le même confort et la même sensation de légèreté dans la chaussure, je change. Ouais.
C'est quoi les signes annonciateurs d'une paire usée alors, Grégory?
C'était oui, l'usure de la bande de roulement, on va dire, hein, la semelle d'usure dessous. Alors après, Johan, lui qui a un certain niveau, lui, il a le temps de...
Il le sent, ouais.
Parce qu'il a une proprioception exceptionnelle, il sent tout de suite, lui, quand rien que la semelle intermédiaire va perdre de son amorti et de sa résilience, c'est-à-dire qu'elle va moins répondre à l'impact et au retour. Il n'a pas eu le temps d'user la semelle d'usure dessous, là. Mais chez le coureur lambda, on va dire, c'est l'usure de cette semelle, cette bande de roulement, après la semelle intermédiaire qui va commencer à plisser un petit peu, et puis l'axe, si tu veux, de l'arrière de la chaussure. C'est-à-dire que s'il a un déséquilibre fonctionnel, il va voir qu'il penche vers l'intérieur un petit peu.
Et ça, on peut le sentir dès qu'on enfile les chaussures. Quoi. Dès qu'on penche un petit peu, c'est que ça y est, les paires sont trop usées.
C'est même déjà trop tard, oui.
C'est trop tard. Ok, d'accord. Bon, j'ai un paquet de paires à jeter. Alors. Okay. Merci. Merci, Grégory. Pour vulgariser encore une fois, c'est-à-dire qu'on retourne les chaussures, on regarde et puis on voit en fonction de sa foulée. Oui. Par exemple, si vous êtes pronateur, c'est évidemment dans la zone du talon, sur l'extérieur de la chaussure, vous allez voir l'usure. Et si elle est trop prononcée, là, il faut se dire, faut que je change la paire, quoi, c'est ça.
Après, ça dépend. Hein. Là, tu parles du talon, ça, c'est ceux qui ont quand même une attaque un peu tallygrade.
Oui.
Mais que ce soit à l'arrière ou à l'avant de la chaussure, quand tu commences à voir les dessins qui s'amenuisent un petit peu, sans qu'ils disparaissent, bien sûr, hein, parce que si on va au-delà de cette semelle d'usure, qu'on arrive sur la semelle intermédiaire qui est en mousse plus tendre, là, on use à 4000 à l'heure la chaussure. Donc, c'est juste le signe annonciateur, oui, c'est cette usure de la semelle. Et je te dis, la semelle intermédiaire qui plie.
Bon, alors là, je suis avec deux spécialistes. Je vais en profiter. Vous allez m'expliquer ces fameux termes techniques que l'on observe lorsqu'on choisit des chaussures, soit en magasin, soit sur Internet. Il y a plusieurs termes à expliquer parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que le mesh, les gars, Johan et Grégory?
Non, mais le mesh, c'est le tissu sur le dessus, non?
C'est ça, ouais. Ça fait partie intégrante de la tige de la chaussure. Et en fait, c'est le maillage, si tu veux, qu'il y a au niveau de la tige et qui est plus ou moins aéré, plus ou moins élastique, pour donner plus ou moins de respirabilité au niveau du pied.
Ouais, aujourd'hui, les mèches, ils sont faits quasiment sans couture. À l'époque, c'était plusieurs mèches et aujourd'hui, il y a quasiment plus de couture. Ils sont très techniques, très respirants. Et moi, ce que j'aime sur le mesh, c'est quand il est un peu élastique, mais qu'il y a un bon maintien du pied, parce que c'est hyper important. Si ton pied il flotte un peu dans la chaussure,
vulgairement, c'est ce qui retient les orteils, quoi. C'est la couche au-dessus des orteils.
Ah non, c'est un peu plus en arrière.
C'est plus en arrière. C'est où alors?
C'est sur latéralement, si tu veux, au niveau du médio-pied. Et sur le, on va dire, juste en arrière des orteils, sur le dessus.
D'accord.
Tout ça, c'est le mesh.
Ok, je comprends. Voilà, c'est plus clair. D'ailleurs, question bête, parce que ça arrive à beaucoup d'entre nous, ça m'arrive aussi sur certains modèles. Quand on perce la chaussure, justement, avec les orteils, quel est le problème? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une signification précise?
Faut se couper les ongles.
Ouais.
Exactement.
C'est ça l'histoire, Greg?
Exact. Ouais, alors après, tu as fonctionnellement ce qu'on appelle, nous, les orteils en barquette, si tu veux, notamment au niveau du gros orteil, c'est-à-dire que tu as une flexion dorsale de l'orteil qui est un peu plus marquée chez certaines personnes lors de la propulsion, où la phalange distale, la dernière phalange, va se relever au moment de l'appui plantaire. Tu sais, quand on court, Quand on court, on déroule, on termine sur la pulpe du gros orteil. Mm-hmm. Et certains, lors de cet appui, ont l'orteil qui vient en barquette. Et c'est ça qui fait que si effectivement l'ongle est un tout petit peu long, à force, use la chaussure en dessous. Comme on prend toujours une pointure de plus, on n'est pas sur la partie la plus costaud, si tu veux, de la chaussure. On est sur la partie un peu tissu au-dessus et c'est là qu'on le perce. Ça, c'est okay. Relativement fréquent.
Donc, le conseil que tu donnes, c'est de courir avec le gros orteil replié, c'est ça ? Non, je plaisante.
Ça, c'est autre chose.
T'imagines quelle horreur ! Non, mais je comprends mieux. Les gars, qu'est-ce que c'est que le drop ? Et on pourra en parler avec notre bon plan matos, ça sera important d'en parler, avec la marque Altra qui a une philosophie un peu différente des autres marques. C'est quoi le drop, monsieur Larquet ?
Le drop, c'est la différence que tu vas avoir entre l'arrière et l'avant du pied dans la chaussure. C'est-à-dire que ta semelle a une certaine épaisseur à l'arrière et elle a une épaisseur moindre devant. Et donc, tu as un drop qui est soit de 0. Alors, on va dire que sur les chaussures les plus minimalistes, tu vas être de 0 à 6 mm. Et puis, sur des drops plus importants, tu es entre 7 et 12 en moyenne.
Toi, je sais, Johan, que tu es fan du drop assez prononcé. Hein, ouais. Une nouvelle fois, dans un souci de confort, hein, je crois.
Tu m'étonnes s'il a mal au tendon d'Achille.
Voilà. Ouais. C'est exactement ça. J'ai commencé. Après, c'est suivant les marques et les modèles, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à avoir des chaussures avec un drop assez fort, au minimum 6, généralement, c'est plus 8 même. Mais c'est vrai que voilà, c'est parce que maintenant, c'est trop tard. Hein, chaîne postérieure ischio-mollet qui est très tendue. J'ai une raideur assez forte
là-dessus.
Parce que
ton corps s'est adapté à ce que tu lui infligeais, en fait.
Ouais, parce que j'ai jamais été souple de ça, parce que je viens du foot où on s'est tiré jamais, que ouais. Du coup, je me suis mis à courir un peu par hasard et que j'ai été très bon. Et que j'ai un peu négligé quand j'étais jeune toute la partie étirement, assouplissement, souplesse de toute la chaîne postérieure, que je cours avec une foulée un peu en cycle arrière et tout, que je suis souvent je fractionnais beaucoup sur la piste, donc tu charges beaucoup des mollets, t'as tendance à avoir les mollets toujours très contractés. Et du coup, il y avait cette raideur-là. Et pour compenser, qu'est-ce que tu fais ? Tu te surélèves un peu sur l'arrière. Et puis, quelque part, moi, ça me permettait de me projeter vers l'avant, de courir toujours, d'avoir cette foulée un peu avant-pied et d'aller chercher devant avec des drops importants. Donc, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et aujourd'hui, à l'âge que j'ai, avec 20 ans de course à pied, je ne peux plus passer sur des chaussures minimalistes sans me blesser. Alors après, j'entends tout à fait... que ça peut se faire, qu'il y a des gens pour qui ça correspond, mais moi c'est pas mon cas en tout cas.
Bon, qu'est-ce que c'est que le stack, Grégory ?
Le stack c'est l'épaisseur de la mousse, ouais. C'est ce qu'on confond parfois avec le drop, mais c'est juste l'épaisseur maximale de la semelle en fait.
D'accord.
Et aujourd'hui, les chaussures ont de plus en plus des gros stacks. Hein,
ah ouais, il y a des modèles qui ont des stacks.
Au début,
énormes,
c'était que Oka était un peu précurseur là-dessus.
T'as l'impression de gagner 10 cm quand tu les mets.
Toutes les marques s'y sont mis.
Mais attends, ASICS avait sorti un modèle comme ça, avec une énorme semaine, la Metaride, je crois, à l'époque. C'était ça, Johan ?
Possible, ouais. Ouais, possible, ouais. Mais elle. Je crois qu'elle faisait presque plus de 40 mm.
Ouais, c'est incroyable.
Et du coup, par rapport à ces hauteurs de semelles-là, World Athletics a dû légiférer il y a 2 ans pour dire, voilà, on ne peut plus mettre au-delà de 50 mm de hauteur de mousse avec une plaque de carbone à l'intérieur parce que Nike avait commencé à sortir des prototypes avec des chaussures, des hauteurs de mousse impressionnantes, 3 plaques de carbone... Donc bon, il a fallu mettre un frein un peu à cette dérive parce que c'est vrai que...
Mais ce qui est dingue, c'est que... Vous avez dit, c'est les trampolines sous les pieds.
C'est un peu ça. Hein. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a 10 ans de ça, c'était la mode des minimalistes. On en voyait beaucoup. Et qu'aujourd'hui, on est complètement l'opposé.
Ouais, Greg, tu souscris.
À l'époque, tu avais les Five Fingers avec les orteils. Et puis là, tu es revenu à des choses complètement délirantes. Alors oui, il faut chez certaines personnes comme Johan, typiquement... qui a cette chaîne postérieure qui est rétractée, mais depuis toujours. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se blessait au tendon d'Achille. Donc lui, le drop lui est bénéfique. Il rajoute des semelles qui elles-mêmes ont un dénivelé pour détendre encore plus cette chaîne postérieure. Mais si tu montes sur des pompes qui ont un stack justement démesuré avec une hauteur démesurée, ça sera toujours au dépens de la stabilité latérale. Et on sait que la stabilité, elle est primordiale, notamment pour que ce soit les problèmes de cheville, de genoux, etc.
Le problème des chaussures d'aujourd'hui, là, avec un gros stack, c'est ça, c'est le problème de stabilité et de maintien du pied. Moi, je vois des mecs, bah, beaucoup, enfin, ceux qui démarrent un peu dans le running et qui veulent performer un peu, qui achètent des chaussures, les chaussures qui courent vite à plaque de carbone d'aujourd'hui. Mmh. Et on voit l'instabilité de la chaussure quand un mec de 70 kilos plie la mousse, parce que la mousse, quand même, elle absorbe et elle renvoie, et on voit le genou qui part dans tous les sens. Et je me dis que effectivement, c'est pas, enfin, en termes de stabilité, on a perdu quelque chose quand même. Ce qui est bien pour les podologues, pour ça fait du boulot.
Ouais, c'est ça. C'est gros pour toi, 70 kilos, Johan ?
Ah bah oui.
Non, désolé.
Pèse moins de 60, hein, je te précise, Grégory. Hein.
Là, c'est pour ça que je dis ça.
Non, mais là, tu parles à un moustique, hein. Faut que tu le saches.
Bah oui.
Bah oui.
Allez, non, justement... 70, c'est exagère. Je voulais dire 90.
Ah oui, voilà, c'est ça. Bien vu.
Vas-y, raccroche-toi aux branches.
Ouais. J'aimerais bien avoir ton avis dans un instant, Grégory, sur ces fameuses chaussures à semelle carbone. Dernier terme technique que je voulais expliquer avec vous. Qu'est-ce que c'est que le shank ?
Alors là, moi, je sais.
Le shank, c'est tu trouves ça sur la semelle intermédiaire. C'est un renfort, si tu veux, qui est situé non loin de la voûte, qui est dans un matériau toujours un peu plus dur que la semelle intermédiaire, notamment pour une chaussure pour pronateur, tu vois, par exemple, pour résister au fait que la chaussure va subir une contrainte vers l'intérieur. Ça renforce la semelle intermédiaire. Voilà.
Ok, donc c'est un renfort à l'intérieur de la semelle, quoi. C'est ça.
Ouais, à l'intérieur de la semelle, ouais.
Bon, allons-y sur les semelles carbone. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'elles sont destinées à tout type de coureur, Grégory ? Parce que, évidemment, l'intérêt du carbone pour tout un chacun, c'est d'améliorer les chronos et de tenter d'aller plus vite en limitant les problèmes musculaires.
C'est exactement ça. Alors, c'est limiter les problèmes musculaires, j'en sais rien. Là, il y a un vaste débat. T'as des kinés, des médecins du sport qui montent au créneau. Comme toute nouveauté, hein, si tu veux, il y a certains détracteurs. Il n'y a pas encore de véritable étude qui a été faite sur plus de blessures avec le carbone ou autre. La seule chose, c'est que c'est vraiment pour avoir un meilleur rendement et c'est pour des personnes qui ont un bon niveau et une recherche de la performance. Si tu veux, moi, je pense que quelqu'un qui court à moins de 15 km/h, aucun intérêt de mettre des chaussures carbone. L'autre souci, c'est qu'avec l'arrivée du carbone, tu as des formes de semelles, Johan en parlait juste avant, des formes de semelles un peu différentes qui sont arrivées. Tu as une mousse un peu plus légère qui est arrivée. Donc, en plus du carbone, on recherche surtout de plus en plus l'extrême légèreté de la chaussure. Et l'extrême légèreté de la chaussure sera toujours au dépendant du maintien du pied. Donc, ça a forcément un intérêt, puisque j'ai lu quelques études où il disait que ça augmentait le temps sur 10 bornes, etc., et ça limitait la consommation d'oxygène, on va dire. Mais c'est pas à mettre entre tous les pieds, on va dire.
Entre tous les orteils. Ouais.
Le problème, c'est qu'elles sont très légères. Hein. Elles font 200 grammes, 230 pour les plus lourdes. C'est rare d'avoir une chaussure de carbone à plus de 230 grammes. Donc ça reste hyper, hyper light pour une chaussure de running. Hein.
Ouais, t'approches plus au-dessus des 270 grammes, quoi, une chaussure de running.
Et puis, pardon, mais il y a aussi l'histoire du coût, parce que Johan est sponsorisé.
C'est ce que j'allais dire.
Oui, Johan peut avoir ses chaussures comme ça, mais une chaussure carbone d'une différente marque, des grosses marques sur le marché du running, c'est minimum 200-250 euros.
Ouais, il n'y a pas en dessous de 200.
Bah ouais. Il y a Decathlon qui s'y met un peu avec un modèle un peu moins cher, mais sinon tout le reste, c'est niveau de prix. Donc c'est un investissement quand même. Si tu changes tes chaussures 2-3 fois par an, ça te fait quasiment 1000 euros de chaussures carbone, quoi. Ça fait. Commence à charger, monsieur le podologue.
Tout à fait. Ouais, on est bien d'accord. Ouais.
Mais bon, après, c'est vrai que ça a des avantages indéniables pour les coureurs réguliers, voire très réguliers. C'est vrai que tout de suite sur les chronos, on le sent, Johan. Il y a pas de secret non plus.
Oui, mais oui, tu sens cette c'est l'alliance entre la mousse qui est très réactive, très absorbe. Elle a cette capacité d'absorber les chocs et de renvoyer. Et puis bien évidemment avec l'alliance de la plaque de carbone qui, elle, va vous permettre d'avoir une certaine bascule et un certain renvoi du pied. Donc, c'est pour moi, ça reste une chaussure efficace, mais comme on le disait, à utiliser avec parcimonie, que de temps en temps, que pour certains types de coureurs, que pour le mec qui veut vraiment faire de la compétition et se sentir aller vite, tu vois, avoir cette sensation de vitesse. Si c'est juste, je démarre, je commence le running, je cours une à deux fois par semaine, 40 minutes le long des quais de Seine, ça sert à rien d'avoir une chaussure à plaque de carbone.
Celui qui plante le talon et qui a un impact pied-sol monstrueux, qui n'a pas une foulée un peu rasante ou en cycle arrière, aucun intérêt. Quoi.
Alors, en revanche, c'est intéressant ce que tu as dit, Johan, parce que beaucoup vont se reconnaître. Si je suis dans une prépa marathon, j'ai un niveau plutôt pas mal, j'achète une paire de carbone, et je les mets à quelle fréquence sur la semaine et je les mets pour quel type de séance, alors, Johan ?
Alors, c'est comme tout, je pense que si tu as, par exemple, quelqu'un veut faire une compétition, veut faire un marathon, prenons ton exemple, tu veux faire le marathon... en 3 heures, machin, ça va être, tu vas courir la compétition avec ces chaussures-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quand même se préparer, avoir ses habitudes, avoir cette sensation. Parce que les chaussures à plaque de carbone, l'inconvénient, c'est qu'on a une foulée qui n'est pas tout à fait la même qu'avec les autres paires de chaussures. Et on a une foulée un peu particulière, on a un manque de stabilité, comme on le disait tout à l'heure, et on a cette espèce de renvoi. De rebond, on a l'impression d'être un peu sur des amortisseurs, quoi, des petits coussins d'air. Et quelque part, il faut s'y habituer. Donc, il faut essayer de la mettre par parcimonie, peut-être une fois par semaine, uniquement sur ses sorties longues, sur les sorties spécifiques marathon ou spécifiques 10 km si je prépare un 10 km. Mais vraiment, si je m'entraîne 3 à 5 fois par semaine, faut la mettre une fois tous les 10 jours. Il faut la mettre vraiment sur les séances clés pour s'y habituer à avoir la sensation et pas être surpris le jour de la course.
Parce qu'un jour, tu m'as dit un truc intéressant aussi. Tu me disais...
Ça arrive.
C'est pas toujours le cas, mais parfois ça arrive.
Ça arrive.
Non, mais je rigole. Tu es évidemment le meilleur consultant running de France. C'est pour ça qu'on t'a choisi. Non, mais un truc intéressant que tu m'avais dit, c'est surtout sur une prépa ou sur une semaine d'entraînement, l'intérêt de varier aussi les chaussures et de pas utiliser que des chaussures entre guillemets performantes avec carbone ou avec des semelles intermédiaires, c'est aussi de réhabituer le pied à travailler.
Ouais,
ça, on aura l'avis de Greg, mais toi tu le ressens aussi, tu mets des chaussures aussi parfois un peu plus lourdes pour conserver ton pied intelligent.
Alors,
c'est ce que tu m'avais dit. Hein.
C'est ça, parce que le problème des chaussures à plaque de carbone, moi je me suis rendu compte, c'est que ton pied il fait plus rien. C'est-à-dire que nous, pendant 15 ans, on nous avait appris à faire des séances de travail de technique de pied, de proprio, de pliométrie, pour avoir un pied vraiment dynamique, pour vraiment que votre plante de pied soit, vous voyez, le pied il touche le sol, paf, il repart direct.
Ouais.
Et avoir un pied très dynamique. Et aujourd'hui, ce travail, il n'y a plus besoin de le faire parce que vous arrivez fort, la plaque de carbone elle se plie, pouf, elle vous renvoie. Donc vous arrivez avec une foulée de gros cochons, pouf, la plaque elle va faire le taf. Mais je pense qu'il faut quand même garder. Changer de chaussures. Enfin, moi, je sais que je mets quand même de temps en temps des chaussures dites basiques, classiques, sans une grosse mousse, pour garder cette qualité de pied, garder les nerfs un peu en réaction, garder tous les tendons, tous les tissus un peu réactifs, pour pas que le pied devienne feignant. Parce que pour moi, j'ai l'impression que quand on met des grosses mousses tout le temps en amorti et des chaussures à plaque de carbone, le pied il fait plus rien.
Ouais.
C'est du confort. Et nous, à un certain niveau, et c'est vrai à mon avis pour tous les niveaux, il faut quand même garder. Pourquoi les Kenyans courent pieds nus et vont presque plus vite pieds nus qu'avec des chaussures? C'est parce que le pied, quand il touche le sol, paf, il est hyper réactif.
D'ailleurs,
et ça, on le perd avec les mousses.
C'est impressionnant si vous avez l'occasion d'aller voir un marathon justement au bord de route. Quand vous voyez le plateau élite passer, c'est le contact pied-sol qui est quand même hallucinant. On a l'impression que les mecs volent parce que le pied touche à peine le sol qu'il est déjà.
Il griffe,
exactement. Après, toi, Yohan, t'es un peu excessif parce que tu cours parfois en caterpillar. Bon, c'est pas non plus le meilleur conseil.
En chaussures de ski.
Ouais, c'est ça.
C'est trop facile sinon.
Voilà. Et t'es d'accord avec ce que vient de dire Johan Grégory sur.
Ah, mais complètement.
L'intelligence
en fait,
du pied.
En fait, alors déjà, la première chose, c'est que le pied, vous le sentez tous hein, quand vous êtes dans vos chaussures et pieds nus, la proprioception n'est pas la même. C'est ce qui nous donne l'équilibre. Donc c'est important de retrouver cette sensation justement plus poussée d'équilibre avec le contact au sol, qui n'est pas biaisé par une interface trop importante comme une mousse trop épaisse ou la plaque de carbone. Et pour en revenir à la propulsion, justement, c'est ce que disait Johan est tout à fait juste, c'est-à-dire que le muscle de la propulsion, c'est le mollet, c'est le triceps. D'accord ? C'est lui qui nous donne cette réponse du pied lorsqu'il est au sol, ce rebond vers l'avant. Et en fait, si on détaille tout ce système, c'est ce qu'on appelle le système suro-achilléo-calcanéen-plantaire, c'est-à-dire que tu as le triceps, les deux muscles du mollet, les deux gastrocnémiens et le soléaire dessous, et puis qui se termine par le tendon d'Achille, et puis tu as des fibres qui passent au niveau du calcanéum et qui se prolonge par l'aponévrose plantaire. Et cette aponévrose plantaire, elle est tendue en éventail jusqu'à la deuxième phalange des orteils, sur les cinq orteils. Et si tu veux, tout ce système, c'est un peu ce système élastique qui va te donner cette propulsion. Et si tu ne la travailles pas, tu perds en réactivité au niveau du contact pied-sol et surtout tout fascia ou muscle qui n'est pas hyper sollicité va avoir toujours tendance à un peu se rétracter. Et le risque avec ça, c'est que dès que tu remets un peu trop subitement en route le fonctionnement de ce groupe musculaire, tu risques la blessure.
Donc c'est la confirmation.
Je trouve très très bien l'approche qu'a Johan en expliquant que voilà, ces chaussures performantes carbone, c'est bien de les utiliser de temps en temps, s'y habituer évidemment avant la course elle-même. Mais de toujours revenir à des choses un peu plus basiques, entre guillemets, un peu plus naturelles, histoire de sentir sa proprioception et faire bosser convenablement tous ces groupes musculaires.
Confirmation scientifique de la sensation sportive de notre champion, Johan Durand. Juste deux mots avant de passer au bon plan matos, les gars. Grégory, comment bien choisir une chaussure de trail? Parce que c'est un exercice différent, sur des terrains différents et sur des distances et des durées de course différentes. Donc, est-ce qu'il y a d'autres conseils à donner pour un trailer qui veut choisir une paire de chaussures?
Alors, la semelle, oui, ça de toute façon, ça va de soi, hein, parce que le terrain va être un peu plus accidenté, donc il faut une meilleure accroche. Souvent, il y a un peu de Vibram dedans pour bien tenir sur tout ce qui est un peu humide et caillouteux. Le maintien est hyper important. Souvent, tu as des modèles trail qui ont beaucoup de renfort au niveau de la tige latéralement pour tenir le pied. Parce qu'une chaussure de running type route, elle est vraiment sur la dynamique avant, sur la propulsion. Là, tu vas commencer à avoir des matériaux et un mesh, justement, qui a un peu plus de tenue latérale pour bien maintenir ton pied sur ces terrains accidentés. Et d'autant plus que sur le trail, tu vas avoir beaucoup plus de dénivelé. Oui. Et t'as beau prendre une pointure et demie au-dessus, si t'as pas un bon maintien au niveau du médio-pied, du coup de pied, ton pied, il va, dans les descentes, va glisser malgré la pointure supplémentaire et tu vas te retrouver avec des magnifiques hématomes sous les ongles. Ah, oui. Où t'entends battre ton cœur et t'as qu'une envie, c'est qu'on t'enlève tout ça rapidement parce que c'est insupportable.
Et tu pourras enlever les ongles à la pince à épiler. Clac, 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 voilà, comme ça, puis t'attendras qu'ils repoussent.
Ouais, c'est ça. Tu seras magnifique sur la plage avec tes tongs.
Voilà, exactement. Question pour Johan Durand, avant de résumer les principaux conseils. Johan, toi, tu es associé à une marque, donc on peut la citer hein, quand même, t'es un athlète ASICS depuis des années. Ça veut dire qu'évidemment, la marque te voit comme une égérie, donc tu dois porter les nouveaux modèles qui sortent. Comment ça se passe? Est-ce qu'on fait attention tout de même à tes sensations? Admettons, si le modèle précédent de la chaussure carbone te plaît plus que le nouveau modèle, est-ce que tu as le droit de courir avec sur une grande compétition?
Alors moi, je fais pas partie, faut savoir, chez ASICS, il y a quand même 10 athlètes qui sont testeurs des nouveaux prototypes, c'est-à-dire que eux on va leur envoyer des nouveaux prototypes, 3-4 chaussures, et ils vont dire, ouais, là, manque de stabilité, manque de maintien, elle nous renvoie pas assez vers l'avant, enfin... Ils vont un peu définir la chaussure à leur goût et c'est comme ça que va être créée une chaussure. Moi, je ne fais pas partie de ces athlètes-là. Donc moi, je reçois les chaussures quand elles sont finies et quand elles sont sur le marché. Mais quand même, on a une petite formation produit. On nous envoie la chaussure hein, quand il y a des nouveautés et on nous explique un peu le drop, la hauteur de semelle, l'idée de la chaussure globalité. Est-ce que c'est plus pour les pronateurs? Est-ce que c'est... une chaussure universelle, enfin les choses comme ça. Mmh. Et après, je la teste. Alors la difficulté, c'est ça, c'est que moi, je reste un peu fidèle à certains trucs, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai une chaussure qui me correspond, je sais par exemple que chez ASICS, la Nimbus, je l'utilise pour mes footings de récupération à 12-13 km/h, quand je veux vraiment du confort, de l'amorti, de la stabilité, que ça bouge pas, je reste sur la Nimbus et j'utilise toujours un peu les mêmes produits parce que je les connais et parce que, alors il y a des choses qui changent, il y a des variantes, mais je préfère rester comme ça qu'aller tester des chaussures qui des certaines nouveautés que voilà en saison,
ouais, mais regarde,
je peux
alors,
pas me,
à l'entraînement
je peux pas me permettre.
Que tu portes la Nimbus à l'entraînement, à la rigueur ASICS, je pense que ça les intéresse pas trop. En revanche, citer monsieur ASICS sur le marathon de Paris, est-ce qu'on t'impose de porter le nouveau modèle carbone pour justement le mettre en avant, ou est-ce qu'il y a quand même une discussion?
Non, bah il reste quand même à l'écoute de nos sensations, hein. Si la chaussure est vraiment moins bien, bah malheureusement, et si on se sent pas à l'aise, nous on est quand même dans une logique de performance et de
haut
niveau, donc ils préfèrent que tu perfes même si tu as le modèle de l'année d'avant que le dernier modèle. Mais malgré tout, non, ASICS là-dessus n'est pas très. Ils m'ont jamais obligé à porter telle ou telle paire de chaussures. Et
bon.
Moi je sais que par exemple, dans les MetaRacer, les dernières MetaSpeed, moi j'ai vraiment adoré la première génération. Mmh. Et par exemple, la MetaSpeed Sky, j'aime un peu moins bien parce que j'ai l'impression qu'elle me renvoie vers le haut, avec une grosse hauteur de semelle, un gros stack, et elle me renvoie pas vers l'avant. Mais ça, c'est rapport à ma foulée à moi,
c'est
tout à fait personnel. Mmh. Peut-être qu'un coureur, notre coureur qui va avoir une foulée complètement différente de la mienne, la chaussure lui correspondra, et elle doit correspondre puisque le champion d'Europe du marathon cet été avait la Sky, alors que moi j'avais opté pour l'ancienne génération.
Non, mais c'est intéressant. Tu vois que la marque
chaque
écoute
foulée,
le ressenti du champion,
ouais,
c'est quand même.
Non, il faut que les marques malgré tout, elles sont à l'écoute des champions, et la meilleure pub qu'on peut leur faire, c'est de
bien
performer
sûr,
avec leurs produits, peu importe si c'est un produit de l'année d'avant ou le dernier produit à la mode.
Allez, avant le bon plan, Matos, monsieur le podologue Grégory Larquet, est-ce qu'on peut résumer les principaux conseils pour un runner pour choisir sa paire de chaussures?
Je vais te résumer ça. J'ai juste retenu deux choses. C'est que Johan, il est comme les rois. Tu sais, ils avaient leur goûteur. Lui, il a les mecs qui testent pour lui. Donc, s'il se fracasse avec les chaussures,
bon,
ouais, il a
ça,
les testeurs.
On appelle ça un champion.
Et puis, ouais, voilà. Et puis alors, tu disais peut-être que ASICS se fiche qu'ils courent avec les Nimbus. Ils se ficheront encore moins du fait que Grégory Larquet court avec les mêmes chaussures que Johan Durand.
Ah, excellent. Voilà. Et ça, c'est important.
Ça.
Et alors, non, mais c'est vrai que savoir qu'un podologue court avec son modèle, ça doit être gratifiant pour une marque. Quand même.
Bah, ASICS, ouais, numéro un du running.
Bah, oui, oh. Bon.
Ouais, c'est une marque qui revient fréquemment, que j'ai souvent dans les mains au cabinet. Oui, tout à fait.
Bon, les principaux conseils.
Donc, ta question,
Larquet,
pardon.
Ouais.
C'était...
On résume les principaux conseils qu'on vient de donner pendant trois quarts d'heure.
Les principaux conseils.
Pour choisir une chaussure de course à pied.
Déjà faire analyser sa foulée. Alors, c'est ce qui se fait de plus en plus dans les magasins. Si on a un doute, quel qu'il soit, consulter un professionnel, un podologue, pour savoir si notre équilibre, on va dire, pied, cheville, genou, bassin, est normal ou nécessite une correction. Et en fonction de ses antécédents, de son poids, de l'intensité avec laquelle on va courir et de la fréquence avec laquelle on va courir, un conseil de chaussage qui est plus ou moins de drop, une stabilité latérale si jamais il y a une pronation ou une supination, et d'adapter de se faire conseiller les chaussures en fonction du terrain sur lequel on va courir, et éventuellement des semelles correctrices pour corriger tous ces déséquilibres fonctionnels.
Bon, parfait, c'était tout à fait complet, on peut passer au bon plan matos.
RMC,
le bon plan matos.
Et cette semaine, une marque est à l'honneur dans RMC Running, la marque américaine Altra, qui est née donc aux États-Unis. Le fondateur de la société, un dénommé Harper, qui a constaté que malheureusement les chaussures changeaient la foulée naturelle des coureurs, et qui en a fait une philosophie. On va en parler avec Franck Lemouillour, qui est responsable France de cette marque américaine. Bonjour Franck.
Bonjour Benoît, bonjour Johan, bonjour Grégory.
Bienvenue Franck.
Bonjour.
Et merci d'être là, parce que vous êtes là depuis le début, donc vous avez tout entendu, tous les conseils du podologue, tous les conseils de Johan.
Je vous écoute de manière très intéressée.
On va se faire massacrer.
Non, je pense pas, mais...
Il y a beaucoup de choses que vous avez dites qui résonnent du point de vue d'un fabricant comme Altra.
Bah oui, c'est sûr. Alors allons-y, expliquons la philosophie particulière d'Altra, Franck.
Bah écoutez, si on résume, cette marque, elle est d'abord jeune, puisqu'elle a été créée il y a 10 ans par deux Américains passionnés de trail et de biomécanique. Donc, ils ont commencé par bricoler des chaussures existantes sur le marché jusqu'à fabriquer les leurs. Du coup, autour d'une solution assez innovante en faveur d'une foulée qualifiée de plus naturelle. Donc, c'est quoi? En fait, ça s'articule autour de deux principes. Donc les chaussures proposent d'abord un chaussant anatomique qui laisse davantage de place aux pieds. On parle de boîte à orteils.
Ouais.
Donc le bénéfice étant une stabilité plus naturelle du pied lorsque le pied touche le sol au moment de l'impact. Si vous réfléchissez, quand vous faites des pompes, vous êtes plus stable en écartant les doigts. Donc c'est un petit peu le même principe. Et ensuite, ce qu'on note aussi, en laissant plus de place à l'avant-pied notamment, c'est que vous avez une participation un peu plus active, notamment du gros orteil, sur la phase de propulsion.
D'accord.
Donc ça génère une sensation très différente. Et du coup, le deuxième axe qui rend Altra un peu spécifique, c'est l'absence de drop, dont vous avez beaucoup parlé, sur toutes les chaussures de la gamme.
Donc pas de différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied, quoi, c'est ça ?
Voilà, absolument.
Voilà.
Ouais, juste rebondir sur vous avez parlé de drop. Souvent, il y a une confusion entre l'absence de drop, le drop zéro, et le minimalisme. Donc, c'est pas vraiment l'un n'implique pas l'autre, puisqu'aujourd'hui, Altra propose des chaussures avec des hauteurs de semelle jusqu'à 3 cm, tout en étant en drop zéro. Donc, c'est du drop zéro, mais il y a énormément de protection et d'amorti.
Alors, je précise que vous faites des chaussures de trail, de route également, et des chaussures mixtes qui peuvent être à la fois trail et route, donc chez Altra. Bah, un avis, monsieur le podologue Grégory Larquet, sur cette philosophie d'Altra, est-ce que c'est une philosophie qui te plaît, tout simplement ?
On va dire que ça me plaît plus que certaines philosophies à l'excès. Pour avoir... pas mal de pathologies de la chaîne postérieure quand même en cabinet. Je pense que le drop zéro, je comprends hein, l'approche, hein, revenir à quelque chose, à une course de plus naturelle, je pense que le drop zéro est pas pour tout le monde. La chaussure, malgré tout, ça reste... comment dire ?
Une protection ?
Non. Oui, une protection, mais si tu veux, c'est une entrave quelque part au déroulé naturel d'un pied. C'est-à-dire que nous, quand on grimpait aux arbres ou qu'on attaquait le gibier il y a des années, on était tous pieds nus. Hein. Donc, t'as un déroulé naturel du pied et une résistance de celui-ci qui est un petit peu entravée par une chaussure. Et le fait d'avoir un petit peu de dénivelé. En fait, le drop, ce n'est rien d'autre qu'un talon. Hein.
Ouais, voilà.
Mais, simplement, ce n'est rien d'autre qu'un talon. C'est ce que tu vois sur quasiment toutes les chaussures, en réalité. C'est ce qui permet, par rapport à se dérouler du pied et au fait que la chaussure en elle-même soit une entrave au déroulé naturel, de dérouler plus naturellement le pied vers l'avant. Voilà. Alors après, si un coureur a une foulée médio ou avant-pied, ce qui est, il y en a beaucoup, aucun souci pour mettre un drop zéro à partir du moment où il n'a pas de problème de tendon d'Achille ou de la chaîne postérieure.
Mais d'ailleurs, Grégory, ce qui est intéressant, et Franck, on en a discuté avant le podcast, c'est que les gens qui se mettent sur des chaussures Altra, qui commencent à les enfiler, à les mettre pour l'entraînement, au début, il faut y aller avec précaution, évidemment, parce que ça peut bousculer musculairement, c'est un peu différent, mais il y a beaucoup de gens qui sont tout de suite totalement séduits, qui retrouvent une espèce de foulée naturelle et qui ensuite ne peuvent plus se passer de ce modèle, quoi, ou de leur modèle qu'ils ont choisi.
Ouais, parce que en plus du drop zéro, il n'y a pas que ça sur les chaussures Altra. Il y a effectivement la boîte à orteils, hein, la toolbox qui est un petit peu plus large et qui donne un peu plus de proprioception justement sur l'avant-pied. Et la qualité de la mousse qui a un peu plus de flexion longitudinale, donc qui permet de sentir, d'avoir un côté un peu plus naturel. Mais voilà, pour quelqu'un qui court un peu plus médio avant-pied, aucun souci, il va se sentir bien. Quelqu'un qui talonne un peu plus ou quelqu'un qui a des problèmes ou de fasciite plantaire ou de tendon d'Achille, ça va être plus dur, si tu veux, d'assimiler ce type de course.
Ouais. Franck, c'est
Grégory,
parce
qu'il va mettre une tension. Je rebondis sur ce que vous dites.
Vas-y, Franck. Allez-y, Franck.
En effet, la majorité des coureurs talonnent, puisque c'est quand même le grand public. C'est le cas de presque la plupart des coureurs. Le drop réduit aussi l'impact du talon lors de la foulée. Moi, c'est ce que j'ai personnellement ressenti. Une foulée du coup plus fluide et aussi raccourcie un petit peu, avec plus de fréquence. mais avec le talon qui tape moins sur la route. Et je pense que le bénéfice d'un drop zéro peut aussi être réel pour des foulées, alors, pas forcément médiumpieds.
Ah bah de toute façon, oui, oui, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que quand on a un drop sur une chaussure, on va avoir plus de contact talon que sur zéro drop. C'est tout à fait exact. Après, c'est juste par rapport au déroulé fonctionnel du pied au moment où le pied impacte le sol. Celui qui va avoir, avec le drop, ça va positionner son pied un petit peu en équin, c'est-à-dire l'arrière un peu plus relevé par rapport à l'avant, va s'éviter des problèmes au niveau de la chaîne postérieure.
Mais on peut conclure là-dessus, les gars. Franck, Greg et Johan, on a parlé tout à l'heure de pied intelligent. Est-ce qu'un modèle Altra, on peut l'intégrer aussi comme un complément d'entraînement? Parce que c'est vrai qu'on travaille différemment avec ce type de modèle. Grégory, notamment.
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Ben, c'est ce que je disais. Hein. C'est cette forme particulière devant, avec la possibilité d'avoir un peu plus de contact orteil, va redonner cette sensation de proprioception qui est importante pour l'équilibre et nous faire revenir vers une course un petit peu plus physiologique sur une chaussure qui va moins entraver le déroulé naturel du pas. Oui, tout à fait.
Voilà, Franck, on ne devient pas ultra exclusif forcément, on peut l'utiliser comme ça aussi, Franck.
Bien sûr, ça marche dans tous les sens.
Bon.
Et nous, ce qu'on dit souvent à nos distributeurs, c'est qu'il est même plus facile de recommander la marque à un débutant, potentiellement qui n'a pas l'habitude de courir avec du drop. Donc, il n'y a pas nécessairement une phase d'adaptation requise, avec une sollicitation supérieure, en effet, de la chaîne postérieure et du tendon d'Achille. Si vous commencez avec ça, dans l'absolu, ça fonctionne aussi.
Tout simplement. Et n'est-ce pas, Yodu, hein, faut commencer plutôt avec ça qu'avec une chaussure carbone.
L'important, c'est de commencer.
Voilà, c'est ça.
L'important, c'est de commencer.
Exactement. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Merci, Franck. Juste une question, où est-ce qu'on peut les trouver, ces chaussures Altra? Est-ce qu'il y a un site internet officiel sur le réseau français? Est-ce qu'il y a des sites internet qui sont revendeurs de la marque Altra? Où est-ce qu'on en trouve, alors?
Il y a un site internet officiel. Si vous tapez Altra, vous allez facilement le trouver, mais tous les bons distributeurs de course à pied aujourd'hui proposent la marque et de plus en plus, je dirais, puisque cette philosophie résonne de manière un petit peu de plus en plus forte par rapport aux coureurs et du coup, vous la trouverez relativement facilement.
Bon.
En tout cas, on est ravis de la faire découvrir à vos auditeurs,
bah
chanceux,
oui.
qui vont gagner les paires qu'on propose aujourd'hui.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Vous avez gentiment accepté de nous faire gagner trois paires, donc trois modèles différents d'ailleurs pour des types de coureurs différents. On peut le préciser d'ailleurs. Je crois qu'il y a un modèle, donc c'est la Young Peak, hein, c'est ça, Young Peak 6, voilà, qui est offert. Il y a une Taurin 6 aussi, pour ceux que ça intéresse, et une Outroad. Voilà, donc vous pouvez aller consulter sur Internet à quoi ressemblent ces modèles. Ce sont forcément des chemins différents. Voilà, il y en a pour la route, il y en a pour le trail, il y en a pour du mixte. Hein. Vous pouvez courir sur différents types de parcours. Toujours le même rappel, si vous voulez participer, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Strava. On fera gagner une paire par réseau. Voilà, il y en aura une sur Strava, une sur Insta et une sur Twitter. Tentez votre chance, vous vous abonnez, vous tentez votre chance en laissant votre pointure en commentaire et en croisant les doigts surtout, parce que le tirage au sort sera effectué par une main innocente d'RMC Running. Et oui, il y en a. Merci Franck d'avoir été là. À bientôt, bon courage pour le succès de cette marque Altra qui est à retrouver sur tous les grands salons également des différentes grandes courses françaises, notamment le Marathon de Paris. Donc n'hésitez pas si vous voulez avoir plus d'informations, il y a également le site internet. Je remercie Grégory Larquet, notre podologue. Merci Greg.
Merci Benoît, merci
Greg,
beaucoup.
T'as un emploi du temps chargé, mais on va te prendre comme le podologue des RMC Running, hein, si tu veux bien. Hein. Ah, il a pas
ça dépend des conditions, ça dépend des conditions. Non, je plaisante.
On rajoutera une ligne.
Il faut faire le marathon.
Ou on rajoutera une ligne dans le contrat de Captain Larquet. Voilà, on s'arrangera. Et puis merci Coach Yodu, toujours passionnant de t'entendre échanger avec nos différents interlocuteurs. On a tout appris sur les différentes paires de chaussures.
Les thématiques sont bons.
Exactement. Merci,
ouais,
merci
Johan, c'était super. Ouais.
Merci
ouais.
Grégory, merci Franck, merci à tous les trois. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine évidemment pour un nouveau numéro d'RMC Running avec toujours ce même conseil. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.
RMC Running.